Catherine Bertram, bonjour.
Bonjour.
Donc voilà, vous êtes la directrice de la mission Bassin Minier, donc labellisée UNESCO, et ça fait déjà pratiquement 5 ans, même voire plus, que ce projet existe et travaille.
Alors la mission Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais a été en fait créée en 2000, donc ça fait 17 ans. Et c'est au cours de notre histoire de structure d'aménagement que la question en fait de la valorisation du patrimoine minier s'est posée. Pendant 10 ans, nous avons travaillé au dossier de candidature. Un processus très long, hein, puisque ça se place au rang international. Et en effet, il y a 5 ans, le 30 juin 2012, nous avons reçu la reconnaissance par l'UNESCO, hein, en tant que paysage culturel évolutif vivant du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, nous sommes la structure gestionnaire de ce label, même si le mot label, on peut en parler. En tout cas, c'est une inscription sur la liste du patrimoine mondial.
Donc, qui dit labellisation, dit cahier des charges à respecter et inscrire ce cahier des charges dans un délai, un temps qui a été visiblement bien occupé. Enfin, on voit déjà des choses très concrètes, notamment avec le site web où il y a énormément de ressources qui sont en ligne.
Oui, ce cahier des charges, c'est le plan de gestion. Hein, qui comporte plusieurs piliers. Comme vous le disiez, il faut aider à mieux connaître et faire reconnaître, informer sur ce qui compose ce bien, mais aussi veiller bien sûr à sa protection, sa préservation. C'est une tâche de tous les jours et avec beaucoup, beaucoup de partenaires. Donc évidemment, sauvegarder des bâtiments, des espaces néo-naturels, parce que nous avons aussi bien des bâtiments que des terris, par exemple, hein, 51 terris dans le périmètre stricto sensu. Mais c'est aussi bien sûr aider au projet d'aménagement qui concernent bien sûr les cités minières. On a quand même 124 cités minières dans le périmètre, hein, sur un total de 563. Donc c'est évidemment le cadre de vie des gens, puisqu'on est en territoire habité. Hein, nous ne sommes pas comme dans le cas de la grotte Chauvet, grotte préhistorique, qui ont moins de problèmes d'habitants. Nous sommes en territoire habité, 1,1 million d'habitants, hein, sur ce territoire. Donc le cadre de vie des gens, ce sont les cités minières, hein, qui sont dans ce périmètre, leurs jardins, les cavaliers qui sont les anciennes assises de voie ferrée des mines, qui est un chevelu de chemin, de sentiers cyclopédestres que nous essayons de développer depuis des années dans le cadre de la Trimbertée Bleue avec les communautés d'agglomération notamment. Et bien sûr, c'est aussi gérer dans la gestion. Ça fait 5 ans que nous sommes inscrits, c'est bien sûr faire approprier cette inscription par le plus grand nombre, puisqu'en fait la conservation du bien, elle doit avoir un sens social pour une communauté humaine, évidemment d'hier avec les mineurs et leurs familles, mais aussi les petits aujourd'hui qui vivent encore dans ce territoire, et bien sûr les habitants et les touristes qui viennent maintenant nous visiter. Donc c'est une tâche de ce qu'on appelle la médiation qui est une énorme tâche. Heureusement, nous avons des points d'appui comme le Centre historique minier à Le Ward ou le CPE Chaîne des Terris qui nous aident et qui sont eux-mêmes des émetteurs forts d'informations, d'expositions, de visites. Et le réseau des offices de tourisme de territoire est bien sûr un point d'appui formidable. Et enfin, en élargissant un peu, les 5 grands sites de la mémoire minière sont vraiment des portes d'entrée qui nous permettent aussi de bâtir ce qu'on appelle la destination touristique autour du Louvre-Lens, qui inclut en fait le patrimoine mondial. Et donc, c'est toute cette mayonnaise qui doit être montée, sachant que certains processus prennent beaucoup de temps. Hein, ça ne se décrète pas d'un claquement de doigts. En tout cas, c'est en effet la médiation, l'interprétation, l'appropriation qui est un facteur clé dans les années à venir.
Donc, dans les sites qui sont préservés, on va dire, et mis en valeur, est-ce que vous avez, en tant que mission Bassin Minier UNESCO, eu votre mot à dire? Est-ce que vous prenez en charge des secteurs, des zones qui sont à protéger, à mettre en valeur?
Donc, en fait, la mission Bassin Minier, on ne s'appelle pas mission Bassin Minier UNESCO, la mission Bassin Minier, elle a évidemment, elle est une structure, un outil. Hein, on n'est pas une collectivité peut être propriétaire, gestionnaire, une collectivité. Par contre, nous travaillons puissamment avec les collectivités, avec l'État, avec la région et les départements pour coordonner des politiques, en effet, pour à la fois préserver Hein, les bâtiments en titre des monuments historiques ou avec la Fondation du patrimoine, avec qui nous avons noué une convention d'ailleurs, parce qu'il y a un certain nombre de sites qui sont encore en danger ou qui doivent être encore sauvés, hein, comme quoi on a encore une tâche importante sur ce sujet. C'est évidemment la gestion des terris, hein, évidemment, où vous avez aussi bien des sports de nature ou de découvertes. Il y a beaucoup de marcheurs nordiques, de vététistes qui sont très 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 friands de ces nouveaux espaces de sport, de découvertes familiales ou ultra sportives. Donc ça aussi c'est pour dans les projets d'aménagement, c'est de préserver mais aussi de développer, faire que la nature, la biodiversité sur les terris et les cavaliers soit compatible avec les usages humains qui commencent à poindre très fortement, hein, parce que l'UNESCO est très attentive aux notions de pression, hein, il faut vraiment arriver à concilier ces deux aspects. Et évidemment, nous avons été beaucoup le moteur de cahier des charges et d'assistance technique aux grands projets. Donc sur les grands sites de la mémoire minière, j'en parlais. Bon, le centre historique minier est un peu à part parce que lui, il est bien institué depuis des années. Puis c'est notre plus grand musée et centre de ressources. Mais c'est également donc le site de Waller-Sarrambert, donc dans Valenciennois, avec Creative Mine, hein, qui a été inauguré il y a quelques années. Mais vous avez également donc si vous passez l'autre côté du département. Donc vous avez le 11-19, hein, à Losangoël, le 9-9 bis ici, où nous avons travaillé en étroite collaboration avec la communauté d'agglomération pour développer le projet. Et bien sûr, la Cité des électriciens, qui est notre petit dernier. On le couvre avec tendresse, parce qu'on s'en est beaucoup occupé avec la communauté d'agglomération d'Artois-Com et la ville de Bruay-la-Bussière, donc qui va être inaugurée au printemps, hein, et qui va être le centre d'interprétation de l'urbanisme durable, en même temps qu'un magnifique site, une cité minière, puisque les quatre autres sites de la mémoire sont des grands sites de production, hein, de fosses. Là, c'est une cité minière, donc c'est sa spécificité. Et donc, oui, on a travaillé vraiment pendant des années en amont sur les cahiers des charges, sur l'assistance technique pour que ces grands projets éclosent. Donc, en effet, on a aussi travaillé, et nous travaillons encore très fortement avec les bailleurs du parc social minier, hein, notamment un programme qui s'est appelé les cités pilotes, où on pouvait faire montrer en fait en termes de d'exemples à diffuser et à multiplier l'exemple qu'une cité minière donc même bâtie il y a un siècle pouvait être la cité l'habitat du 21e siècle avec des jardins attractifs, avec des espaces publics reconquis, avec une rénovation thermique pour que les gens aient à moins payer de factures de chauffage, avec une brique rénovée dans les règles de l'art, et donc une cité qui soit reliée à ces quartiers, à la ville. Donc on a par exemple la cité de Lemay-Sainte-Marie donc à Pécancourt, hein, qui est une de ces cités pilotes, mais vous en avez d'autres, la cité Thiers donc dans le Valenciennois, ou la cité de donc Bruno à Dourges, qui va être inaugurée prochainement. Donc c'est aussi bien, vous voyez, prendre en compte le patrimoine, le cadre de vie des gens. Ça, c'est très important. Les habitants, qui parfois ne savent pas qu'ils sont en territoire patrimoine mondial, c'est leur quotidien, c'est le cadre de vie. Ils ont toujours vécu là, ou ils viennent d'arriver, parce qu'il y a aussi des nouveaux entrants dans ce parc, puissent être contents d'y vivre, fiers de leur maison, et aussi attirer de nouvelles populations.
Alors pour ceux qui ont connu les années 60, l'arrêt des puits de mine, et puis aussi toute une période où on a essayé de gommer cet aspect minier, de se débarrasser de cette image de terri, etc. Là, effectivement, on est dans une nouvelle étape, et peut-être que la labellisation, on va dire UNESCO, a permis de comprendre qu'on pouvait tirer parti aussi d'une histoire, même si elle n'a pas toujours été simple, hein, et qu'elle a posé aussi des problèmes aux habitants. Donc, on peut dire que maintenant, le bassin minier, avec cette mission et puis tous les travaux qui ont été réalisés, la mise en valeur des sites, est complémentaire d'un certain nombre d'équipements et de réalisations à l'échelle de la région Hauts-de-France, et donc peut dynamiser d'une certaine manière, notamment le tourisme en région.
Oui, vous avez pointé quelque chose de fondamental. C'est quand même la bataille de l'image et de la notoriété. Hein. On partait parfois d'assez loin hein, dans l'image. Là, en fait, chaque reportage, chaque documentaire, chaque article, chaque interview, merci d'ailleurs, hein, pour nous, c'est des petites briques qui construisent une nouvelle image. Et on a eu quand même vraiment une curiosité. Il y a un intérêt qui ne s'est jamais démenti. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 2 ans, on se disait, on a eu beaucoup d'articles d'intérêt par rapport à quand l'inscription s'était effectuée. Et en fait, ça ne s'est pas démenti. C'est même en croissance. On a plus de 500 articles sur des émissions radio, une quarantaine, enfin et ça n'arrête pas. Et j'ai envie de dire, tant mieux, parce que ça permet de tisser cette nouvelle image, alors qui ne repeint pas les volets en rose. Hein, nous sommes très conscients des difficultés du territoire et nous y travaillons pour aider à les résoudre. Mais en tout cas, c'est vrai que quand j'ai créé un peu une spirale vertueuse, il y a encore des choses à faire énormément, comme finir les sites de mémoire, il faut les finir. Hein, les étudiants lillois connaissent le 99 bis de Wany parce qu'ils vont au concert, c'est à 20 minutes quand ça roule, sur l'autoroute A1, pour avoir un beau concert au métaphone donc du 99 bis qui a trouvé sa place dans les salles de concert. Bon, eh bien, on caresse l'espoir, bien sûr, que avec déjà la tranche qui s'est faite là, parce qu'on va avoir des salles qui sont là de répétition et d'enregistrement, hein, mais aussi d'avoir un jour un restaurant sur le site, un café ouvert tout le temps pour pouvoir garder les gens de passage et les habitants des cités en face, hein, bien sûr. Donc il faut finir les sites de la mémoire qui ont commencé déjà à vraiment, vraiment, pour le coup, à accomplir leur mue. Que ces sites de la mémoire travaillent bien ensemble, ça c'est très, très, très important. Donc on va initier vraiment un réseau d'animation de ces grands sites en matière de programmation, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont à échanger, etc. avec les acteurs culturels et touristiques. Évidemment, vous avez raison, c'est autour de la destination, autour du Louvre-Lens, c'est les liens puissants avec le musée du Louvre. Hein, musée du Louvre-Lens. Nous avons signé un contrat de destination touristique qui nous a hissé par le gouvernement en 2015 à la hauteur de la promesse touristique comme la Corse, la Dordogne. Ça montre la confiance que certains nous font pour développer les actions. Et le tourisme, nous, on a beaucoup de tourisme culturel, c'est notre champ d'action. Nous ne sommes pas les Seychelles, et nous ne le serons jamais, et heureusement peut-être, mais en tout cas, on n'est pas dans ce créneau-là. Mais c'est vraiment d'avoir ces partenariats forts, quoi. Et l'événementiel, vous parliez d'image, le tourisme événementiel, c'est vraiment un créneau dans lequel nous œuvrons et avec les autres partenaires, aussi bien pour qu'un jeune trouve intérêt à aller dans le bassin minier pour un trail des pyramides noires, bon, qui est vraiment l'épreuve sportive reine que nous portons. Hein, on a eu les 1000 participants cette année, 105 kilomètres, des terris donc à monter, à descendre. Enfin, c'est une grande, grande épreuve, mais qui commence à avoir beaucoup de renommée. Donc on ne sera peut-être pas jamais au niveau de l'ultra-trail du Mont-Blanc, mais les pyramides noires, les terris sont nos Mont-Blanc. Mais aussi, on a bien sûr notre quinzaine festive, qui est notre mini-festival. Chaque année, Bassamier fête le patrimoine mondial. Et puis là, en fait, la troisième année de notre inscription et la cinquième année, c'était un très, très réussir la fête, parce que ces anniversaires, ça se fête. La première année, ça a été vraiment, enfin, pour le troisième anniversaire, ça a été 25 000 personnes qui ont assisté à l'embrasement pyrotechnique des terris. Hein, qui était une grande aventure, hein, comme l'allumage des feux de Gondor, hein, c'était un peu l'ambition. Alors dans certains secteurs ça a marché, d'autres moins. On fait avec les moyens qu'on a aussi. Et puis le 30 juin dernier, donc on a eu notre feu d'artifice pour nos 5 ans, avec une programmation, avec deux temps forts dans le Pas-de-Calais, notamment le mapping réalisé avec l'aide de Daniel Charpentier sur la piscine Art déco de Bruy-la-Bussière, qui a été absolument extraordinaire. Je ne sais pas si on pourra donner les références YouTube ou de la petite vidéo, mais c'est absolument formidable. Et aussi les rutilants plus, l'édition augmentée des rutilants, où là on a eu dans le cadre des spectacles musicaux, et parce que la musique est l'axe fort du 9-9 bis. Eh bien, on a eu aussi une animation pyrotechnique, un concert de brass band qui sont venus opérer. Donc, on a eu aussi des opérations dans le Nord qui ont été coordonnées avec, je le cite comme ça, un repas noir. Qui était développé par deux restaurants, où de l'entrée au dessert, tout était noir. Donc là, on était dans les codes autour de Louvre-Lens, qui en fait sublime le noir. Le noir, c'est notre couleur. Qui a longtemps été le noir de la suie, du travail, du charbon, mais aussi c'est le noir chic, le noir qui a été sublimé dans ce repas noir. Donc on a eu un grand succès avec l'office de tourisme de Valenciennes. Donc voilà, c'est des choses comme ça où en fait la vision décalée. Montrer les pépites qu'on a sur ce territoire, qui sont parfois méconnues. C'est un peu l'ambition de notre créneau que nous développons avec la mission départementale Louvre-Lens Tourisme et tous les partenaires. Et là, il y a un champ absolument extraordinaire à conquérir. Et puis, c'est aussi taper sur tous les outils. On a un film d'animation maintenant grand public. Avec une petite mascotte. Donc on a quand même une batterie d'outils maintenant, que ce soit des outils de connaissance, vous avez cité le site web, l'index sur le patrimoine minier. On a quand même commencé à un peu s'étoffer pour pouvoir répondre à, y compris maintenant, puisqu'on a éveillé l'intérêt de quelques entreprises dans le Valenciennois pour essayer aussi de développer ces traits encore embryonnaires, mais un peu de mécénat, parce que ça fait partie vraiment aussi de la professionnalisation de l'approche.
Donc le 9-9 bis, tout le monde connaît quand même le nom. Par contre, situer géographiquement le lieu, le localiser et y venir, comment on fait ?
Alors c'est très très simple, puisque vous prenez l'autoroute A1 et c'est la sortie 17-1, plateforme de Dourges Delta 3. Vous avez un petit rond-point et vous êtes à 2 minutes donc du grand site de la mémoire 9-9 bis qui accueille donc en son sein le Métaphone, donc la salle de concert, et donc après tous les équipements liés à la musique, au patrimoine, puisqu'il y a aussi une équipe patrimoine très performante. Et vous avez bien sûr aussi, puisque dans les grands sites on mixe les activités patrimoniales mais aussi économiques, il y a un bâtiment tertiaire qui accueille des entreprises tertiaires. Donc voilà, donc à 20 minutes de Lille, quand ça roule.
Catherine Bertram, donc la mission Bassin Minier maintenant a une expertise. Est-ce que cette expertise-là, vous pouvez la mettre à disposition d'autres régions du monde, pourquoi pas, qui sont éventuellement en mutation, qui pensent le devenir par rapport à l'exploitation minière ?
C'est même une de nos responsabilités. Nous sommes à la fois au plan français, parce qu'il y a une association des biens inscrits au patrimoine mondial. Nous sommes une sorte de pool d'expertise. Et des fois, on fait bénéficier les nouveaux candidats à l'inscription au patrimoine mondial de notre expertise. Et évidemment, comme au fil des années, aussi bien au sein de projets Interreg, projet transfrontalier, donc on a beaucoup travaillé avec la Pologne, l'Allemagne, la Ruhr notamment. Et là, nous sommes impliqués dans un projet européen lancé par le Centre du patrimoine mondial qui s'appelle Underground, où nous sommes en fait la tête de pont. Donc, puisque c'est les undergrounds, c'est souterrains, d'une des thématiques, en charge d'une thématique. Et puis aussi, nous avons été demandés, et nous sommes demandés régulièrement pour notre expertise, aussi bien à l'appui d'un dossier. Marie Patou, notre historienne, a été demandée en son temps à participer à un très important séminaire pour les sites japonais de l'ère Meiji. Les sites industriels de l'ère Meiji qui ont été d'ailleurs inscrits, mais bien sûr aussi par notre expérience à la fois en reconversion vers le projet de le projet de gestion UNESCO, donc dans, aussi bien en, à Barcelone bientôt, en Chine, ça nous est arrivé deux fois, ça va, j'y repars en mois d'octobre avec beaucoup de bonheur, par l'ambassade de France, par l'Agence française de développement, pour pouvoir en fait témoigner de notre expérience, de trajectoire finalement, d'un territoire qui est parti donc de la mono-industrie, où il y a eu évidemment la fermeture, progressive mais fermeture, et le choc hein, de cette fermeture, les chocs des crises économiques, et comment un territoire se relève avec ses ombres et ses lumières, dans une trajectoire qui vient aussi, quelques années après, donner une valeur universelle, internationalement reconnue, à un patrimoine qui était le patrimoine de l'ouvrier, hein, qui n'est pas celui des rois et de l'Église, mais qui a autant de valeur. Et donc c'est toute une trajectoire qui intéresse aussi. Il y a le fait qu'on soit patrimoine mondial, oui, mais aussi cette trajectoire. Ça, c'est quelque chose qui est un peu consubstantiel à notre être propre.
Alors, en Chine, il y a des régions qui vont se reconvertir, puisque je pense qu'on est prévu la fermeture d'un certain nombre de sites d'exploitation minière pour des raisons liées à la pollution, etc., et puis aussi de diversification des énergies. Est-ce qu'il y a des régions que vous connaissez, éventuellement, dont vous seriez partenaire pour apporter des solutions, des idées, et échanger, bien sûr
Alors à notre niveau, hein, c'est pour ça que j'ai longtemps et nous travaillons aussi lorsque la région, les départements ont des initiatives en matière de politique de coopération internationale. Il est évident que ça nous fait nous gagner beaucoup de temps et donner une énergie qui permet d'avoir des résultats lorsqu'il y a des coopérations. Hein, par exemple avec le Brésil, le Minas Gerais. L'État minier, la région avait un partenariat avec l'État du Minas Gerais. On a fait partie du pool d'expertise pour en fait faire converger la vision de la reconversion, du développement économique, de la culture, du patrimoine. Donc ça c'est quand même très très c'est une bonne manière de faire parce que il faut pas non plus disperser l'énergie. Là c'est un acte important. Lorsque l'ambassade de France l'année dernière m'a demandé de participer à un cycle sur l'architecture en mouvement, j'ai pu aller à Shenyang, donc à l'état minier donc du nord de la Chine, proche de la Corée. Grand état minier, c'est pas le seul, hein, on en parlait. Évidemment, les Chinois commencent à programmer la fermeture donc de leurs mines. Donc à la fois c'était important de faire état de notre expérience, puisque maintenant la fermeture de la mine chez nous c'est 1990, hein, donc il y a pas mal de recul, mais c'est aussi en matière de diplomatie économique. Nous avons des entreprises très performantes donc en Hauts-de-France qui ont une expérience très forte en matière de reconversion. C'est aussi pour peut-être prendre rang aux côtés des autorités chinoises et bien sûr les autorités françaises pour qu'on puisse se brancher sur ce terrain de la reconversion et des marchés. Donc c'est à pluri-entrée. Hein, cette approche, et je pense que ça permet aussi de prendre un peu les choses ensemble. Et ça, c'est assez, c'est un peu la leçon du passé, les leçons du passé que nous avons. Hein. Guérir une friche, ça peut prendre peu de temps. Hein, on a l'établissement public foncier qui est un outil très performant, la recomposition sociale, la mémoire, bien sûr les reconversions professionnelles, bien sûr les mentalités, la culture, la communauté, ça ne se fait pas dans le temps de 4-5 ans. Hein, le temps qu'un arbre pousse, ça nécessite parfois 15 ou 20 ans. Et j'ai envie de dire qu'on est encore là-dedans. Et montrer sans donner de leçons, hein, sans donner de leçons aux partenaires internationaux comme la Chine qui vont s'y mettre, c'est faire juste état de cette difficulté d'allier temps court et temps long dans une trajectoire de reconversion et de résilience, hein, le mot est bon, remettre un territoire et ses habitants debout, alors qu'il a été vraiment dans la mono-industrie ou dans une industrie aussi consommatrice que le charbon. C'est ça dont on peut faire état et montrer comment on a coordonné les choses, aussi les leçons que nous avons tirées. Donc je pense que c'est ça qui est dans la trajectoire, quelque chose qui peut parler aux Chinois comme aux Brésiliens, d'autres pays dans ce cas.
Alors dans notre région, nous avons la chance d'avoir de grandes écoles. Je pense à l'école des mines de Douai, je pense aussi à Polytech et Centrale Lille. Est-ce que ces étudiants chinois qui donc viennent découvrir un peu notre vision de la technologie, etc., pourraient venir vous rencontrer peut-être pour avoir concrètement un aperçu de comment on peut faire évoluer les choses, avec quelles technologies, comment eux peuvent être aussi acteurs, pas forcément quand ils font les études, mais quand ils en sortent ou quand ils font des doctorats, chez eux en Chine, améliorer les choses, voilà, être citoyen du monde chez eux.
Moi, j'y crois vraiment. Je prends un autre angle. Hein. Je sais que moi-même, j'ai été adoptée par la région il y a 23 ans. Il y a 23 ans, la bataille de l'image de Lille était déjà gagnée par qui ? Par les étudiants. Moi, on m'a pas sorti, oh là là, tu vas dans le nord, oh là là, c'est noir. On dit, oh, c'est super, il y a des bars, tu vas voir, tu vas t'amuser. Quelle région dynamique, parce que c'était les étudiants qui me l'avaient dit. Donc moi, j'ai eu une image immédiatement très positive du nord par cette entrée-là. Donc il n'y a pas de raison, les étudiants de France entière et les étudiants du monde entier, quand ils viennent étudier, que ce soit l'université d'Artois ou l'université de Lille ou du littoral, enfin, peu importe, ils sont eux-mêmes, ils deviennent aussi ambassadeurs de la région dans laquelle ils ont étudié, voire même travaillé, il y en a certains qui restent, mais quand ils repartent, il y a aussi bien le savoir et le bagage technologique que aussi cet amour ou cette vision, ces bons souvenirs. Et je pense que tisser ces réseaux, garder des contacts via des associations, via tout ça, c'est très très important. Moi, j'y pense que c'est même fondamental. Donc on a même reçu la commu, les représentants de la commu, dont des étudiants chinois donc au mois de juillet. Donc évidemment que nous, on est prêts à recevoir avec plaisir des étudiants et des étudiants chinois. Donc avec l'anglais, hein, désolé, on n'est pas encore au mandarin, mais en tout cas avec grand plaisir, ça c'est réel, c'est réel. Et puis la cible en fait de la Chine, comme au niveau même des touristes, hein, intéresse tout le monde en France, en Europe je pense, et puis évidemment nous aussi. Donc oui, on serait très preneurs.
Éventuellement, vous seriez ouvert à des stages pour ces étudiants chinois ?
Mais en fait, la bien sûr, enfin, il faudrait voir la faisabilité, parce que là, c'est pas aussi par rapport à la possession de la langue. Parce que là, nous travaillons quand même dans beaucoup au service du Nord, du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. On a, bien sûr, on le disait, de l'expertise, mais c'est quand même une partie assez faible de notre activité qui est quand même d'abord mobilisée par les projets ici. Donc, mais pourquoi pas, ce serait une approche comparée. Maintenant, en plus, j'y suis allée, il y a peut-être des choses à rapporter. Il faut en discuter.
Pourquoi pas un site avec une partie en chinois un jour ?
Ah, une traduction d'une partie de notre site, ou oui, pourquoi, évidemment, mais c'est surtout, enfin, je pense, enfin, nous, on n'est pas opérateur, bien sûr, hein, touristique, hein, mais c'est intéressant. Je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'un étudiant chinois a dans la tête quand il voit un paysage minier. Par exemple, nous avons su par le travail artistique que, par exemple, les Japonais étaient littéralement parfois complètement subjugués par les terris, donc comme des petites montagnes sacrées, donc aussi bien un travail photographique extraordinaire. Donc, par exemple, pour un étudiant japonais ou un artiste japonais, un terri, c'est absolument fantastique. Alors, mais un étudiant chinois n'est pas un étudiant japonais, et en fait, ce serait intéressant de savoir ce que ça leur fait, qu'est-ce qu'ils ont par rapport à leur ville d'origine, leur pays d'origine, leur représentation. Ce serait très, très intéressant de sonder cela aussi pour nous, ça permettrait d'alimenter, d'affiner un peu notre point de vue, et ça pourrait finalement servir à affiner un peu la cible touristique chinoise. Pourquoi pas? Même si là, on travaillerait avec les professionnels du tourisme, mais en tout cas, ce serait une bonne, peut-être une approche sympathique à avoir.
Donc c'est vrai aussi que dans la région, au-delà des écoles d'ingénieurs, on a aussi des lieux de formation et donc où des étudiants chinois apprennent la langue française, mais aussi l'interculturalité d'une certaine manière. Ça, vous pourriez éventuellement aussi l'exploiter en termes de communication un jour.
Oui, complètement. Puis c'est très porteur parce que je citais le programme Underground là, initié par le Centre du Patrimoine Mondial. Une des cibles du programme Underground, ce sont les Chinois. Donc là, on aurait du matériau. Ce serait intéressant peut-être de voir avec le projet qui avance, d'avoir un input ou une entrée grâce à des étudiants chinois sur ce qu'on fait dans Underground. Ce serait peut-être intéressant d'avoir ça assez rapidement.
Merci, Catherine Bertrand.
Merci beaucoup.